Excellent réveil. Si vous nous rejoignez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le pape François se donne 3 jours et demi à partir d'aujourd'hui pour conscientiser les responsables de l'Église catholique, pour reconnaître et pour lutter contre les agressions sexuelles sur mineurs. Comment expliquer qu'elles soient si nombreuses? Élément de réponse en début de journal, alors qu'un sommet inédit à ce propos débute au Vatican.
Et puis dans ce journal, Clara, dans la suite du thème que nous abordons dans les matins, nous interrogerons sur la proposition de loi pour lutter contre la haine sur Internet. Emmanuel Macron l'a annoncé devant les représentants de la communauté juive de France hier.
Les négociations sur l'assurance chômage n'ont pas abouti. Syndicats et patronats ne trouvent pas d'accord sur la question de la précarité notamment. Le gouvernement reprend la main, vous l'entendrez.
Nous ferons aussi le bilan de la loi sur le devoir de vigilance imposé aux grandes entreprises françaises. Les plans pour mieux prévenir les atteintes aux droits de l'homme sont largement insuffisants, estiment des ONG.
Dans le billet politique après ce journal, Frédéric Seyss reviendra sur l'affaire Benalla, sur la lourdeur des accusations et la légèreté des réactions. Ils viennent des 5 continents et représentent toutes les conférences épiscopales du monde. 115 responsables de l'Église catholique se réunissent à partir d'aujourd'hui au Vatican sur demande du pape François. Il organise un sommet sur la protection des mineurs, comprenez sur les abus sexuels dévoilés, dénoncés dans l'Église. Comment lutter contre la pédophilie? La rencontre s'annonce déjà historique. Elle a donc été finement préparée par le Vatican qui a notamment changé toute son équipe de communication. Certains responsables aussi parle d'une voix plus forte ces derniers jours, Cécile de Kervas-Doué.
Face à la crise des abus sexuels, il faut une révolution copernicienne dans l'Église, a lancé hier le président des évêques australiens au Vatican. La question c'est comment? En France, le père Vignon, qui fête cette année ses 40 ans de prêtrise et qui est depuis les années 90 un lanceur d'alerte sur les abus sexuels dans l'Église, a son idée. La révolution pour lui, ça passe par un changement radical dans la hiérarchie.
Le système de nomination depuis des décennies fait qu'on nomme comme responsable dans l'Église catholique des gens qui ne font pas de vagues. Il y a le système du silence mis en place sous le pontificat de Pie IX au milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire, quand il y a une affaire un peu chaude, entre guillemets, on la traite par le secret. Voilà. C'est toute la période post-révolutionnaire, en fait. L'Église s'est sentie attaquée. C'est ça qui est à l'origine plus précise, à mon avis, de la culture du silence dans l'Église.
Ce n'est pas la première fois que l'Église catholique est appelée à répondre à des crises de confiance. Dès le XVIe siècle, le protestantisme avait dénoncé les abus des ecclésiastiques, poussant le catholicisme à mener sa propre réforme, qui se fixe lors du Concile de Trente. C'est ce qu'explique Frédéric Gugelot, historien du catholicisme à l'Université de Reims.
Dans cette réforme, elle va décider de réinvestir le prêtre d'une mission en lui accordant une place encore plus importante que celle qu'il occupait jusque-là et en l'exaltant en particulier, mais aussi en exigeant de lui une discipline qui en même temps va sacrifier, j'allais dire, une part de son humanité, en particulier évidemment les exigences par rapport au corps, par rapport à la sexualité. Et c'est ce pari-là qui fonctionne hein, au moment où il est fait au XVIe siècle qui peut-être atteint ses limites actuellement.
Et il met en garde l'attente de l'opinion publique est aujourd'hui très forte, mais attention, le temps de l'opinion publique et le temps des médias est loin d'être celui de l'Église.
L'Église qui, pour la première fois cette semaine, a défroqué un ancien cardinal américain accusé d'abus sexuels sur mineurs. Au Chili, par ailleurs, où le scandale a été très vaste, les évêques ont dû démissionner. 148 enquêtes judiciaires y sont ouvertes sur des affaires similaires. Juan Guaido sera aujourd'hui à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. L'opposant vénézuélien et président autoproclamé du pays s'y rendra avec des partisans pour tenter de faire entrer l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis. Ses vivres, ses médicaments sont bloqués par l'armée fidèle au président élu Nicolas Maduro. Et c'est en cette raison de tension qu'Air France annule ses vols vers le Venezuela jusqu'à lundi prochain. Une mesure ponctuelle, dit la direction, qui évoque la sécurité de ses clients. Le président brésilien veut économiser 275 milliards d'euros sur 10 ans. Jair Bolsonaro affirme trouver cet argent en réformant le système de retraite dans le pays. Le chef d'État d'extrême droite a besoin pour cela des 3/5 des députés et sénateurs brésiliens. C'est loin d'être gagné pour le moment, d'autant que le climat politique s'est dégradé depuis son élection avec plusieurs scandales de corruption qui concernent sa famille mais aussi son parti. Il ne s'en est rendu compte qu'hier, Anne Vigna.
Jair Bolsonaro avait prévu d'apporter lui-même son projet de réforme des retraites au Congrès pour bien signifier l'importance de cette réforme constitutionnelle, la première de son mandat. Le président n'avait par contre pas prévu que cette présentation se ferait en plein scandale de corruption qui touche son parti, le Parti Social Libéral. À peine avait-il passé le portail du Congrès que le président se retrouvait face à des députés de l'opposition mimant ce scandale de corruption. Il n'a pu ainsi éviter que la photo se retrouve dans la presse alors qu'il s'est déjà séparé lundi d'un ministre aujourd'hui accusé d'avoir eu recours à des candidats fantômes pour toucher des subventions. La teneur de la réforme en a presque été oubliée, alors qu'elle est pourtant capitale pour le pays. Si elle est approuvée, elle laissera de nombreux Brésiliens hors du système de retraite. Il faudrait désormais cotiser 35 ans, avec un âge minimum de 65 ans pour les hommes, et 30 ans de cotisation et 62 ans d'âge minimum pour les femmes. Or, si l'espérance de vie au Brésil est aujourd'hui de 75 ans, elle n'est que de 60 ans pour la frange la plus pauvre de la population. La réforme ne prend pas non plus en compte le travail informel qui touche près de 20% de la population qui bénéficiait jusqu'à présent d'un minimum retraite. La réforme, par contre, concerne bien tous les secteurs, y compris les forces de sécurité, alors qu'ils bénéficiaient jusqu'ici de privilèges défendus notamment par Jair Bolsonaro lorsqu'il était député.
Anne Vigna au Brésil pour France Culture. Nous apprenons ce matin cette alliance. Les deux principaux adversaires du Premier ministre israélien s'associent dans le but de battre Benjamin Netanyahou lors des élections législatives anticipées du 9 avril prochain. En cas de victoire, les centristes assureraient alors ensemble une fonction de Premier ministre tournante.
Il est 8h06 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Nous l'évoquons dans les matins, Emmanuel Macron veut tracer de nouvelles lignes rouges contre l'antisémitisme.
Il l'a dit hier soir au dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et a donc promis plusieurs mesures. Une nouvelle définition de l'antisémitisme qui inclurait l'antisionisme. Un audit aussi des établissements scolaires touchés par la déscolarisation des enfants de confession juive. La dissolution encore de 3 associations d'extrême droite et puis une loi pour mieux lutter contre la haine sur Internet. Elle sera déposée au mois de mai prochain. Cette proposition de loi, pourrait-on dire, Élodie Rabel, devra être efficace. Une nouvelle loi donc.
Il existe déjà des lois pour lutter contre la haine en ligne, celle de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et celle plus récente contre le harcèlement. Problème, elles sont méconnues et difficilement applicables selon l'avocat en droit numérique Jean-Baptiste Souffron. Pour lui, le défi du gouvernement est de comprendre les usages actuels des plateformes numériques afin de mieux les responsabiliser.
C'est d'abord une question de culture qu'il faut réussir à mettre en place. Les plateformes qui ont un peu trop tendance à se laver les mains de ce qui se passe sur leur réseau. Mais au-delà de ça, il y a aussi un problème de moyens pour les enquêteurs. On a l'impression qu'on est encore dans les années 80. Aujourd'hui, les réseaux sont utilisés par tous les Français ou presque. Les délits, les infractions qui correspondent ont augmenté de la même manière.
Pour autant, muscler l'arsenal législatif pourrait, selon l'avocat, rendre plus confus la loi. Il plaide pour une harmonisation des signalements des contenus haineux sur Internet.
Est-ce qu'il est normal, en 2019, de considérer que finalement, les comportements d'insultes, de haine et de racisme sur les réseaux sociaux doivent être gérés par les réseaux sociaux eux-mêmes et non pas par l'État. Dans la rue, c'est quand même aujourd'hui encore l'État qui gère ces choses, qui prend en compte les plaintes. Pourquoi en serait-il autrement sur des plateformes de communication qui, bien qu'étant privées, doivent rendre des comptes à la collectivité comme tout le monde? Il serait normal donc que ça soit à l'État de reprendre un petit peu ces choses en main comme il devrait normalement l'être.
En attendant, un projet de loi de lutte contre la haine en ligne devrait être présenté d'ici juin prochain par le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, regrette l'échec de la négociation sur la réforme de l'assurance chômage. Elle précise que le gouvernement prendra ses responsabilités. Après le non-accord des syndicats et patronats sur la question, l'exécutif reprend en effet le dossier et il reste pas mal de zones d'ombre, Catherine Pétillon.
Première question, celle de la méthode. C'est désormais le gouvernement qui a la main. Il peut donc décider seul des futures règles de l'assurance chômage. Syndicats et patronats vont néanmoins essayer de peser et d'obtenir des réunions tripartites afin de poursuivre les discussions avec l'exécutif. Ce dernier peut y avoir un intérêt, mais il n'aurait pas non plus de raison de se priver de la possibilité de mener la réforme comme il l'entend, voire d'aller plus loin que le cadre qu'il avait fixé aux partenaires sociaux. Ce qui inquiète le plus les syndicats, ce sont les économies annoncées. L'objectif est de 1,3 milliard d'économies annuelles sur 3 ans. Et parmi les pistes les plus avancées pour y arriver, il y a le durcissement des conditions d'ouverture des droits au chômage et le cumul entre allocation et emploi. Cela reviendrait à faire des économies sur le dos des chômeurs, dénoncent les syndicats. La principale inconnue, c'est l'avenir du bonus-malus, ce dispositif pour réguler le recours au contrat court sur lequel a buté la négociation. L'exécutif l'imposera-t-il aux entreprises? C'était la promesse d'Emmanuel Macron, mais le sujet est loin de faire l'unanimité entre le ministère du Travail, Matignon et l'Élysée. Les discussions sont donc loin d'être finies.
La réponse est attendue aujourd'hui. L'Élysée doit réagir point par point aux 13 propositions de la commission d'enquête sénatoriale suite aux audiences de l'affaire dite Benalla. Les sénateurs ont estimé hier que la sécurité de l'Élysée avait été affectée. Chose promise, chose due. Après Sèvres, lundi, Amiens, mardi, Toulouse, hier, partons ce matin à Erquy, commune des Côtes d'Armor en Bretagne, où 4 citoyens organisent des séances d'échange dans le cadre du grand débat national. Une séance par thème. Vendredi soir dernier, on y parlait fiscalité et dépenses publiques. Compte rendu de séance signé Rosalie Lafarge.
En quelques minutes, la petite salle municipale se transforme.
Là, on est en train d'organiser la salle, donc en plaçant des groupes de tables.
C'est comme ça qu'on a choisi de travailler à Erquy, par petits groupes, pour dégrossir les choses avant de les mettre en commun.
Pour qu'il y ait un débat, enfin moi, à mon avis, c'est la seule façon, c'est de travailler par table. Parce que là, tout le monde a la parole.
Et c'est bien l'idée pour Yves Tombette, retraité depuis 3 ans. Il est l'un des 4 organisateurs, animateur local de La République En Marche. Il assure avoir laissé sa casquette politique au vestiaire pour ce soir.
Là, on n'est pas là pour essayer de convaincre. On est là simplement pour faire en sorte que les gens puissent débattre.
Et pour ça, on distribue à chaque participant les outils pour débattre.
Donc, le diagnostic du thème du débat et le questionnaire sur lequel on va travailler.
Essayez de vous mettre par personnes qui ne se connaissent pas de préférence, c'est plus intéressant. Bon, bonsoir à tout le monde et merci d'être venu.
Une bonne vingtaine de personnes, principalement des retraités, des Bretons en tout cas prêts à s'emparer du sujet du jour.
Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l'information sur l'utilisation des impôts?
Et madame, vous pensez plus à faire en sorte que chacun paye?
Oui, même symbolique, mais un impôt pour tout le monde.
Un ministre qui dépense beaucoup, il dit « j'ai un bon budget ». Plus on dépense et plus on est bon. Alors que ça devrait être l'inverse.
Dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies?
Frais généraux.
Après une heure de débat par table, les propositions sont mises en commun.
Alors pour l'instant, je vais écouter chacune des tables.
Les solutions scrupuleusement listées, les organisateurs s'engagent à en faire la restitution sur le site du grand débat et chacun semble repartir avec le sentiment du devoir accompli, ou presque.
Il faut s'y préparer intellectuellement. En fonction du thème, difficile de se mettre dans le bain dans la première minute, quoi.
Mais les participants ont l'air plutôt satisfaits de ces 3 heures d'échange. Même Sébastien, chauffeur de poids lourd de 43 ans, ancien gilet jaune.
C'est aussi d'essayer de faire avancer les choses, quoi. Bon, les gilets jaunes, c'est bien, mais faut aussi aller dire ce qu'on a à dire, en fait. Pourquoi ça va pas, quoi. Et c'est en passant par le dialogue qu'on arrivera, je pense.
Le dialogue qui se poursuit à Erquy. Demain, les habitants sont invités à venir parler de la question des services publics.
Et sur France Culture, demain, pour poursuivre ce feuilleton, nous irons-nous en Tunisie auprès de Français de l'étranger qui eux aussi s'emparent de ce grand débat national. Un nouveau drame au Bangladesh hier soir, au moins 69 personnes sont mortes dans l'incendie de plusieurs immeubles dans la vieille ville de Dhaka. Y étaient stockés des produits chimiques. Selon les responsables des secours sur place, le bilan pourrait s'alourdir. Les incendies et les effondrements de bâtiments qui sont fréquents au Bangladesh, on pense évidemment à l'effondrement du Rana Plaza, un atelier de confection de vêtements pour des grandes marques occidentales. Plus de 1300 ouvriers étaient morts en 2013. Depuis les entreprises qui emploient plus de 5000 salariés en France, ces entreprises ont un devoir de vigilance. C'est inscrit dans une loi depuis 2017. Ce matin, 4 ONG, le collectif éthique sur l'étiquette, le CCFD, les Amis de la Terre et Amnesty International, toutes dressent un bilan de cette loi. Il est loin d'être satisfaisant, Marie Viennot.
Quels projets en cours peuvent impliquer un déplacement de population ou se situer dans une zone écologique sensible ou un pays notoirement opposé à la liberté syndicale? C'est à ce genre de questions que les plans de vigilance doivent répondre. Mais la plupart sont imprécis et lacunaires selon les ONG. Ainsi, le plan de vigilance de Total n'évoque jamais les risques de pollution de l'air, de l'eau et des sols de ses activités. Celui d'Auchan ne fait que 2 pages alors que, rappellent les ONG, des vêtements de sa marque propre ont été retrouvés dans les décombres du Rana Plaza. Mieux encore, H&M et Zara n'ont publié aucun plan de vigilance, tout comme le Crédit Agricole et Lactalis. Deuxième constat, il est impossible de savoir combien d'entreprises n'ont pas respecté leurs devoirs de vigilance, car Bercy ne communique pas de liste des entreprises concernées par cette nouvelle obligation. Troisième constat, sur les 80 plans de vigilance étudiés par les ONG, seulement un tiers explique clairement sa méthode pour identifier les risques. Plusieurs entreprises ont créé une adresse internet dédiée aux alertes, mais la plupart du temps, elle n'est pas accessible aux personnes extérieures à l'entreprise, ce qui pour les ONG limite leur intérêt quand on sait qu'en 2017, 207 défenseurs de l'environnement et des droits fonciers ont été assassinés dans le monde. De la loi à son application, peu mieux faire donc, mais les ONG ou toute autre personne ayant intérêt à agir ont la possibilité de saisir un juge sur les plans publiés en 2019 et après. C'est donc à partir de l'an prochain que l'on pourra mesurer le caractère véritablement contraignant de cette loi.
Là, les limites sont posées dès le début. Le pacte qui sera signé ce matin ne sera pas contraignant, mais les grandes entreprises mettent en jeu leur image. Plusieurs distributeurs et industriels vont s'engager au ministère de la Transition écologique à réduire les emballages plastiques de leurs produits. En bref, encore la réforme de l'impôt sur la solidarité, l'ISF. Cette réforme a été précipitée sous la pression d'économistes et de grands patrons, c'est ce qui ressort de l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Une réunion secrète avec des patrons du CAC 40 organisée à l'Élysée a accéléré le calendrier. Cette enquête est à retrouver en une de notre site franceculture.fr. Les grisailles matinales seront tenaces ce matin sur le nord-ouest du pays, mais l'après-midi s'annonce encore ensoleillé et doux. Doux avec ce matin 6 à 7 degrés en moyenne au nord de la Loire, 9 à 12 au sud.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.